Galaxy 98.5.
Christian Lacombe est avec nous sur Radio Galaxy, bonjour.
Bonjour.
Une voix que vous avez déjà entendue sur les ondes, c'est sûr, avec les émissions de Brain Histoire. Si tu es avec nous aujourd'hui, c'est parce que tu es bien évidemment historien local et co-président de l'association Histoire et Tradition Carbonaise, mais tu es aussi le prochain conférencier de la Pupe en Vol. Ce sera le mercredi 28 mai, exclusivement au domaine de la Terrasse de Carbonne, puisque tu vas nous raconter l'histoire de ce domaine, quels sont les peuples qui l'ont occupé et qui fait partie aujourd'hui, il faut le dire, de la richesse patrimoniale de notre Volvestre, Christian.
Oui, bonjour à tous d'ailleurs. Oui, effectivement, je vais vous parler aujourd'hui du domaine de la Terrasse, qui est un domaine, un lieu chargé d'histoire. Mm-hmm. Et l'histoire du domaine de la Terrasse remonte à la préhistoire.
Eh bien voilà, tu nous l'as dit, véritable livre d'histoire qui a été finalement petit à petit oublié, mais vous allez le voir, qui a su traverser les époques. Alors explique-nous, quelle est cette histoire du château de la Terrasse à Carbonne ?
Eh bien déjà, on trouve des traces du paléolithique supérieur, c'est-à-dire moins de 35 000 ans, sur les terrasses attenantes au château. Et aujourd'hui, le lac a recouvert ce territoire du bord de Garonne. Et on a des silex, on a des pierres taillées, on a aussi beaucoup de vestiges qui viennent de ce lieu. Donc, il y avait déjà des gens qui passaient. Ces passants, si tu veux, c'était des cueilleurs, chasseurs, qui longeaient la Garonne parce qu'il n'y avait pas de GPS à l'époque. Et évidemment, il fallait circuler et suivre des axes importants. Et puis, on avait de quoi se nourrir à côté, on pêchait, on chassait.
Alors justement, l'histoire industrielle à cette époque-là aussi, on peut en parler. Si je comprends bien, ce sont d'abord les populations, tu nous l'as dit, de chasseurs-cueilleurs-pêcheurs qui ont suivi le fleuve Garonne pour s'y installer et y faire commerce, finalement.
C'est ça. Et petit à petit, ils se sont installés dès que la culture, l'agriculture est arrivée. Donc, par conséquent, à peu près au néolithique, 6000 ans avant notre époque. Et là, on s'est installé, et notamment, sûrement, en ce lieu de la Terrasse. Parce que c'est bien exposé au soleil. Il y a donc de la nourriture, comme je vous disais. Mais aussi, on a commencé à s'installer en plusieurs communautés. Donc déjà, un petit vicus, un petit nombre d'habitants. Et puis, on a clôturé son champ, on a ce qu'on appelle une possession, un territoire. Et ce territoire va nous amener petit à petit, et puis on enterre nos morts là sur place. Et ce territoire, cette parcelle de terrain, va faire qu'on va le défendre. C'est à partir de ce moment-là qu'on défend nos intérêts. Jusque-là, tout était à tout le monde. Et voilà, c'est une autre époque qui commence. Et on va s'équiper, on va s'armer, on va se défendre. Et puis, petit à petit, on va construire des bâtiments de défense. C'est comme ça qu'il y aura, au Moyen-Âge, une tour à cet endroit.
Qu'est-ce qui a fait qu'ils ont décidé de s'installer ici à Carbonne ? Est-ce que c'était un endroit stratégique entre Toulouse et le Comminges ?
Bien sûr, puisqu'il y avait tout le long des ports, des petits endroits où on a fait des petits foyers, des feux. Il y en avait tout le long quand même des Pyrénées. Il y avait déjà des cueilleurs, chasseurs qui sont partis. Puis on a trouvé du silex qui venait du Périgord ici. Donc par conséquent, voyez un petit peu, les gens bougeaient beaucoup avec leurs travaux derrière leurs épaules. Et puis là, à partir de 6000 ans, ils se sont installés. Ils se sont installés, mais ils ont commercé. Et effectivement, l'agriculture s'est développée. La plaine de la Garonne est très riche en alluvions. Et de l'autre côté, on a aussi un autre type de terre, qui est le terrefort. Alors il suffisait de pouvoir traverser le fleuve pour avoir un élément, le terrefort qui va nous apporter une terre, qui va nous permettre de construire la brique. Tout ça, c'était très important, parce que ça va jouer un rôle essentiel dans la construction du château de la Terrasse, début du XVIe siècle.
Vous vous en doutez bien, c'est une longue histoire pour ce château de la Terrasse à Carbonne. Ça va être difficile de tout énumérer aujourd'hui. C'est pour ça qu'il faudra se rendre à cette conférence du mercredi 28 mai. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a eu différents peuples qui ont occupé ce lieu.
Oui, bien sûr, nous sommes dans le Volvestre, le pays des Volques. Le pays des Volques qui sont installés d'abord le long du Volp, Puis, le Volvestre a donné son nom, sans doute, à ce peuple. Et donc, ces gens, il faudrait aller voir, que vous alliez voir, l'archéocyte de Saint-Julien, qui est vraiment une représentation exacte de nos ancêtres, les Gaulois, Volques, qui vivaient là. Donc, à quelques kilomètres de là, et peut-être même à l'endroit même de la terrasse, il y avait ce genre de population.
Aujourd'hui, en découvrant ce patrimoine, qu'est-ce que cela nous permet de comprendre sur l'histoire qui s'est passée à Carbonne avec ce château? Est-ce que ça nous permet d'en savoir encore plus sur les peuples qui ont vécu?
Alors, les peuples qui ont vécu, on les a étudiés parce qu'ensuite sont venus les Romains. Alors, les Romains, 500 ans de présence, ce n'est pas rien. D'activité fluviale, de commerce, d'exploitation minière avec les Pyrénées. Tout, absolument tout, passait par la Garonne. Bien sûr, il y avait la voie romaine parallèle, mais les déplacements en charrois, tout ça était difficile. Les gros blocs d'exploitation de marbre de Saint-Béat qui allaient sur Toulouse ou dans les villas gallo-romaines qui étaient le long de Garonne arrivaient par le fleuve.
Un peu plus tard, il y a eu la création du domaine avec un moulin et un atelier métallurgique, et puis la construction du château Renaissance qui, lui, date du début du XVIe siècle.
Voilà. Alors, il y avait une tour médiévale au XIIe siècle. On a des traces d'un seigneur de Montaut qui possédait ce domaine et est arrivé en 1400, alors je fais un bond dans l'histoire, bien sûr, en venant des Romains. En 1475 est né un homme qui s'appelle Pierre Potier, qui était un bourgeois de Toulouse. Un simple bourgeois, je dis simple bourgeois parce qu'il va augmenter dans la hiérarchie. Parce qu'au départ, bien sûr, c'est un homme intelligent qui va devenir le seigneur, le premier seigneur de la terrasse. Puisqu'il a acheté le domaine vers les années 1500 et qu'il est devenu, il était délégué aux finances locales de Toulouse, aux octrois. Puis il est devenu ensuite provincial. Il a été représentant de la province du Languedoc et à Nîmes en 1505. Donc déjà, c'est une promotion très importante. Et ces bourgeois, toujours, ont essayé d'accéder à la noblesse. Et c'est en achetant ces terres de la terrasse qu'il est devenu seigneur de la terrasse. Donc, une promotion sociale très importante. Et tous les gens qui vont se succéder à la terrasse auront cet esprit.
On peut citer également l'ancienne manufacture royale de draperie qui s'est installée dans les dépendances du château. Dis-nous en plus, Christian.
Oui, alors c'est plus tard, disons, Potier, le dernier des potiers, a cédé la terrasse en 1685-1710 à une manufacture royale qui s'est installée, avec là aussi un bourgeois, Marc Cassius, qui n'avait aucun nom de noblesse. Mais ce Marc Cassius était un bourgeois qui a profité du canal du Midi, qu'on appelle canal du Midi, mais qui était le canal royal du Languedoc à l'époque, pour développer le commerce des textiles. Il avait déjà sur Narbonne une manufacture, et à Carbonne, il a impulsé afin que le roi, sous Colbert, reconnaisse la terrasse comme une manufacture royale de textiles. Et à partir de là, se sont développées des techniques de tissage très importantes et des textiles très connus qui ont diffusé dans tout l'Orient, avec le canal royal du Languedoc, et puis vers aussi les Amériques, par Bordeaux. Voilà, donc la fortune de la terrasse commence en 1705-1710, grâce à Marc Cassius, qui va devenir seigneur de Puymorin. Et après, je ne vous dis pas, enfin bref, de le milieu toulousain, tout ça va se développer.
Le château de la terrasse à Carbonne, on le rappelle, qui a été édifié au Moyen-Âge. Il a ensuite traversé les époques de la Renaissance contemporaine. Et puis, c'est au XXIe siècle, après 600 ans d'existence, que le château a pratiquement disparu. Qu'est-ce qui fait que le site a su traverser toutes ces époques?
Eh bien, le site a passé toutes ces époques parce que les potiers se sont succédés de père en fils, mais le château ne s'est jamais vendu jusqu'en 1900, mais ne s'est jamais vendu. Il y a eu uniquement deux familles qui ont occupé, ce sont des cousinages, des successions qui ont fait que le château est passé des potiers à la famille d'Opoule, qui est des alliés. Et entre-temps, si vous voulez, les potiers, par leur fortune il faut le dire, on construit le château de Saint-Élix, mais là, avec de gros moyens, avec de grands architectes comme Clary, par exemple. Et ce château de Saint-Élix, il a été vendu par les potiers, mais le château de la Terrasse est toujours resté potier, jusque, bien sûr, en 1700, jusqu'à ce que la lignée des potiers se soit éteinte. Ensuite, les Opoules.
Et puis, on peut saluer, bien sûr, le propriétaire actuel du domaine de la Terrasse de Carbonne. Aujourd'hui, c'est Laurent Lafont-Porté qui a su faire revivre ce lieu absolument sublime et le mettre en valeur. Ça me semble très important. C'est lui qui vous accueillera spécialement pour cette conférence du mercredi 28 mai. Ce sera à 20h au domaine de la Terrasse de Carbonne.
Exactement. Voilà, nous aurons la chance d'avoir M. Porté qui nous a accueillis gentiment, gracieusement, et qui nous parlera aussi du devenir de ce domaine. Parce que ce domaine est tombé dans l'oubli complet, dans la destruction complète, par l'imbécilité des derniers propriétaires. Et donc, par conséquent, il s'est vendu pierre par pierre. Ce qu'il en restait, c'est M. Laurent Porté qui l'a sauvé, qui l'a transformé. Et aujourd'hui, nous avons la chance d'être chez lui et il va nous expliquer un petit peu le devenir de ce domaine. Donc, c'est une grande joie.
Eh bien, c'est super intéressant. Donc, le mercredi 28 mai, ce sera à 20h au domaine de la Terrasse de Carbonne. Alors, toi, Christian, tu es historien local. Est-ce que tu t'y es intéressé tout de suite à ce domaine de la Terrasse? Est-ce que c'était une évidence pour toi?
Ben écoute, quand j'étais gamin, j'ai trouvé des pierres que je vais amener ce soir-là. Le long. Mais il n'y avait pas encore le barrage, hein. Okay. Tu vois un peu, hein. C'était en 65 par là.
Okay.
Et puis j'ai trouvé aussi des poteries, et puis j'ai trouvé pas mal de choses dans ce secteur quand j'étais gamin. Après, j'ai fouillé avec Gabriel Manière tout le long de la Garonne. Mais là, c'était du gallo-romain. Ouais. Voilà, mais il y en a beaucoup. Et puis, je m'y suis intéressé. Ensuite, quand j'étais scolaire, parce que notre instituteur nous faisait aller au château de la Terrasse prendre des photos. Et puis, j'allais aussi dans le parc avec les enfants de Carbonne, puisqu'il y avait un pin parasol magnifique, hein, qui lui aussi a beaucoup d'histoires à nous raconter. Je vous le conterai donc ce soir-là.
Pour en savoir plus sur le château de la Terrasse à Carbonne, il faut se rendre à cette conférence du mercredi 28 mai. Rendez-vous à 20h, ça se passe exclusivement au domaine de la Terrasse de Carbonne. C'est organisé par la Pupin Vol avec une entrée libre et gratuite et c'est présenté par Christian Lacombe, historien local et coprésident de l'association Histoire et Tradition Carbonaise. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Radio Galaxie, c'est la radio que j'écoute.